160 œuvres proposées, tout droit de Versailles venues, 130 000 visiteurs espérés, dont 6 à 7 000 étrangers. L'affaire est entendue, le chef-lieu du Pas-de-Calais va vivre une année au diapason de Napoléon. Pour la troisième collaboration entre le musée des Beaux-Arts d'Arras et le château de Versailles, c'est donc la figure du général révolutionnaire devenu empereur qui a été retenue. Une exposition d'envergure, comme il n'y en a, nous dit-on, que tous les 20 ans. Ne boudons donc pas notre plaisir, ce qui n'empêche pas de s'interroger sur un tel choix, voire d'honorer d'un écho autre la mémoire d'un homme que tous ne considèrent pas comme grand, et pas seulement du fait de sa petite taille légendaire. Cet écho quelque peu dissonant, PFM vous le propose toute cette année d'exposition avec un feuilleton radiophonique hebdomadaire signé Stéphane Véru, de la compagnie Avec Vue sur la mer, qui a adapté pour l'antenne l'ouvrage de l'historien Henri Guimain, Napoléon, légende et vérité. Stéphane Véru, bonjour.
Bonjour.
Metteur en scène de la compagnie Vue sur la mer, compagnie arageoise, cette exposition, Stéphane Véru, cette exposition de Napoléon, image au pluriel de la légende, vous l'attendez avec impatience, mais vous en attendez quoi au juste ?
Non, je ne l'attends pas particulièrement. Quand j'ai entendu parler de cette troisième exposition Versailles-Arras, j'ai d'abord bondi. Napoléon, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Pourquoi un empereur ?
Pourquoi une exposition sur Napoléon ? Ça va être de la géographie, à mon avis ce sera de la géographie, parce que ça vient des collections qui sont à Versailles, ça date de Louis-Philippe et de son envie, avec le retour des cendres, etc., de donner à la France une espèce de roman nationaliste, etc. Enfin bon, c'est tout ce que je n'aime pas. Et comme Henri Guillemin, d'ailleurs, l'historien dont est extrait le feuilleton, quand j'étais môme, j'étais aussi, comme lui, élevé dans le culte de l'empereur. Et c'est en lisant le bouquin de Guillemin, 1969-70, que j'ai découvert un tout autre personnage. Et effectivement, ma première réaction par rapport à cette expo, ça a été de bondir en hurlant. Et ma deuxième réaction, ça a été de me souvenir que j'avais été adolescent, que j'avais lu ce bouquin de Guillemin, qui à l'époque s'appelait Napoléon tel quel et qui a été réédité sous un autre titre, Napoléon, légende et vérité.
En 2005.
En 2005,
le bouquin date du début des années 70.
69 même, je crois. Édition Utovie, la réédition. Je me suis dit, proposons quand même un autre visage de Napoléon, qui effectivement est, pour le coup, Henri Guillemin n'y va pas de main morte.
Non, on va le voir dans un tout petit instant, mais avant ça, avant d'en venir au feuilleton, avant d'en venir à la façon dont vous avez travaillé, et avant d'en venir à ce Napoléon que vous nous donnez à entendre à travers cette adaptation d'Henri Guillemin, un petit mot de l'expo dont vous dites qu'elle sera hagiographique, mais a priori on nous la présente comme historique. Il n'y a rien de choquant finalement à faire une exposition à propos d'un personnage historique, fut-il ce personnage clivant ?
J'ai pas encore vu l'exposition, j'ai vu qu'un plan. Je vais découvrir ça comme beaucoup de gens à la fin de cette semaine. Mais je ne m'attends pas à voir beaucoup de caricatures de l'empereur, par exemple.
Non, a priori, il y a peu de chance, puisque ce sont des toiles. On nous annonce des toiles, des peintures, des sculptures, des meubles, des objets d'art.
Oui, mais tout ça dans le culte de l'empereur. À mon avis, ça va être ça.
Mais c'est pas parce que les toiles présentées sont hagiographiques que le commissariat de l'exposition, lui, l'est.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut quand même rendre hommage au Conseil régional des Hauts-de-France qui a fait un appel à projet qui s'appelle Résonance et qui nous a donné un peu d'argent pour, en sachant très très bien d'ailleurs de quoi y retourner, qui nous a donné un peu de subvention pour ce feuilleton et ses lectures, puisque je vais faire également des lectures dans divers lieux arageois en 2018.
Preuve que la critique a dos au chapitre.
Tant mieux. Il est parfaitement vrai que je n'aime pas Napoléon Bonaparte. Et j'ai dû faire, à son égard, un sérieux redressement personnel. Car j'avais été mis en condition sur son compte. Comme tous les Français de ma génération et des générations antérieures. Élève des écoles laïques d'un bout à l'autre de mes études, Et je suppose que c'eût été pire si j'avais été soumis à l'enseignement confessionnel. J'ai été dressé dans le culte de l'empereur. Il m'a fallu lutter contre moi-même pour comprendre enfin de quoi j'avais été victime.
Premier extrait de ce feuilleton, Stéphane Véru, que vous signez sur BFM toute cette année autour de Napoléon, Napoléon, légende et vérité, adaptation du livre d'Henri Guillemin, tout est dit finalement dès les premières lignes, c'est un extrait du tout premier épisode, tout est dit, Guillemin il n'aime pas Napoléon, pas du tout.
Au départ il l'aimait bien, mais c'est à force de faire son travail d'historien qu'il s'est rendu compte qu'il était face à quelqu'un de mafieux, qu'elle est un arriviste, népotiste, tyran.
Alors j'ai quelque peu coupé, vous ne m'en voudrez pas trop, j'ai quelque peu coupé le tout début de ce premier épisode qui commence par le mot pamphlet. L'ouvrage est pamphlétaire et ça a d'ailleurs été reproché souvent à Henri Guillemin, une démarche d'historien certes, mais plutôt iconoclaste, plutôt pamphlétaire.
Oui. Et en même temps, il le dit lui-même, il préfère dire du bien des gens, de Zola, de Rousseau, de...
Peggy, Céline. Céline, d'ailleurs.
Ah, Céline, ça je ne savais pas.
Il défend Céline.
D'accord, bah, ça je ne savais pas du tout. Mais c'est un historien. C'est un historien.
Agrégé de lettres à la base, normalien, copain de Sartre dans les années 30. Agrégé de lettres qui après a une grande carrière d'historien, de conteur même.
Oui, tout à fait. Et moi, je l'ai découvert grâce à la télévision belge, parce que donc, quand j'étais ado, la télévision belge, comme la télé suisse et la télé canadienne probablement, diffusait des conférences filmées d'Henri Guillemin, face caméra, qui étaient passionnantes et qui étaient censurées en France. Et moi, j'écoutais ça, enfin, à la maison, on écoutait ça, c'était absolument passionnant, quoi. Sur Robespierre, sur la Commune, sur l'état de Napoléon, bien sûr. Et j'ai même écrit à Henri Guillemin, à l'époque, il habitait Neuchâtel, en Suisse, je crois. Parce qu'il y avait quelque chose que j'avais lu son bouquin sur Napoléon, et puis il manquait une référence, je n'avais pas trouvé les sources. Et puis il m'a répondu, mais je ne trouve plus la lettre. C'était très joli.
Alors vous l'avez laissé entendre tout à l'heure, vous avez été, comme Guillemin lui-même et comme il le disait, vous avez été élevé, vous, dans le culte de l'empereur. Vous avez l'impression, pour ce que vous en savez, des programmes d'histoire maintenant, que ce culte de l'empereur, il vaut encore, il prévaut encore dans les programmes d'éducation nationale ?
Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais effectivement, quand j'étais gamin, je me souviens, j'avais un grand bouquin avec des belles images qui racontaient l'épopée napoléonienne, et puis c'était un personnage absolument majeur de l'histoire de France. Alors l'éducation nationale aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que je sais, que j'ai vu il y a 15 jours dans un kiosque, c'est une revue, je ne dirai pas le nom parce que je ne m'en souviens plus, mais en couverture, c'était Napoléon et De Gaulle. Et il y avait visiblement un parallèle qui était fait entre les deux personnages, et je trouve ça absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux. Pour moi, c'est deux opposés, quoi. Et je n'ai jamais été un fervent gaulliste. Mais comparer Napoléon à De Gaulle, ou inversement, je trouve ça absolument détestable. Je n'avais pas choisi d'étudier Bonaparte. Cette enquête m'a été demandée. Je l'ai entreprise et je l'ai menée de mon mieux, m'apercevant, en cours de route, que mes observations rejoignaient celles de certains hommes peu négligeables, comme Lamartine et Michelet. Et je viens de constater que quelqu'un d'autre aussi, dont je savais très peu de choses, Léon Tolstoï, avait eu les mêmes sentiments que moi. Réflexe du slave devant l'agresseur de son pays ? Non. Il suffit de bien lire « Guerre et paix » pour voir que les sévérités de Tolstoï n'épargnent aucun conquérant. Et Tolstoï avait compris, Il suffit de lire dans son journal de l'année 1857 le récit de sa visite aux Invalides. Il avait compris, après s'être informé, ce qu'était en vérité l'homme proposé à l'admiration de l'univers dans son sarcophage de porphyre rouge. Et il l'écrit en toutes lettres, un bandit, terme dont la traduction littérale en anglo-américain d'aujourd'hui est gangster.
Deuxième extrait de votre feuilleton, Stéphane Véru, la fin du tout premier épisode, où là encore, dès le début, si je puis dire, tout est dit. Napoléon, hein, gangster, c'est le premier des noms d'oiseaux que va utiliser Guillemin à propos de Napoléon. Il y en aura bien d'autres.
Il y en aura bien d'autres. Petit chacal, notamment.
Alors ça, c'est le titre du premier chapitre, Petit chacal. Rien moins que Petit Chacal, il y aurait quoi d'autre encore? Éternel permissionnaire, on l'apprend très vite dans vos premiers épisodes. Visiblement, il n'était pas spécialement assidu.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Pourquoi éternel permissionnaire? Parce qu'il était plus souvent en Corse que visiblement en train de défendre la France, lors même que celle-ci était patrie en danger.
Tout à fait, mais c'est-à-dire qu'il essayait toujours de monter ses coups, monter ses affaires. Une fois c'était la Corse, après ça a été l'Italie, après c'était l'Égypte. Et puis revenu en France, s'il n'y a que la France, ben allons-y, on va s'occuper de la France.
Et une grande haine visiblement de la France qu'on retrouve dans certains courriers que Guillemin donne à entendre.
Ah oui, il détestait, en tout cas il l'a écrit, il détestait la France. Il faudra écouter dans les premiers épisodes, c'est... Effectivement, il y a quelques extraits de lettres qui ne
trompent pas.
Et après, il a détesté aussi les Corses. Voilà, c'était pas un pays pour lui non plus, quoi. Mais je crois qu'en fait, c'était un grand arriviste, donc il voulait l'argent facile, il voulait le pouvoir, il voulait la belle vie.
C'est un peu le mafieux affairiste.
Voilà. C'est vous qui continuez le catalogue des noms d'oiseaux.
Vous
avez de la ressource.
Non, on a vite fait de prendre des synonymes
de
ceux que Guillemin emploie, mais c'est un peu ça, effectivement. Quelqu'un qui est très nationaliste au début et qui après va se servir de la France pour ses ambitions. La France, pour laquelle il a fait quand même quelques petites bricoles, si je puis dire, ne fût-ce qu'administrativement. Napoléon, qu'est-ce que vous sauveriez de Napoléon, si tant est que vous ayez envie d'en sauver quoi que ce soit, Stéphane Véru?
Non. Personnellement, je ne sauverai rien. C'est partie de ces personnages de l'histoire de France pour lesquels je n'ai aucune sympathie. Voilà. Et puis il a laissé le pays dans un état pire qu'en 1792, y compris au niveau des frontières, je crois. Non, il n'y a rien à sauver.
Alors s'il n'y a rien à sauver de Napoléon, restons-en là. Stéphane Véru, parlons quelque peu de votre œuvre, de votre adaptation, de ce travail d'Henri Guillemin. Comment vous vous y êtes pris pour adapter le livre radiophoniquement? C'est plus très couru, ça, les feuilletons radiophoniques?
Oh, c'est bien dommage. C'est passionnant, les feuilletons radiophoniques. Alors c'est un travail difficile, c'est un travail de contorsionniste, parce qu'il faut se... Il faut accepter la contrainte, ce que je trouve d'ailleurs assez passionnant, mais on va dire, voilà, le format, c'est 5 minutes. Donc il faut faire en sorte que, évidemment, on ne va pas arrêter un épisode au milieu d'une phrase, mais c'est même pas ça. Il faut que ça se termine par une idée un peu forte et avec un minimum, donner un minimum l'envie aux auditeurs d'écouter la suite, donc de jouer un peu sur... sur le suspense.
Le teasing, comme on dit maintenant. Le cliffhanger.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est passionnant, mais c'est assez difficile. D'autant que je fais plusieurs adaptations, puisque je vais faire des lectures au Rapperché, au musée ou à la médiathèque, je ne sais pas encore, dans divers lieux culturels à Rajoie. Et là, le format sera différent. Ce sera des lectures d'à peu près une heure. Mais une heure, ça veut dire que je m'arrête au coup d'État, je m'arrête au sacre. C'est beaucoup de travail, mais...
Guillemin va du berceau à la tombe.
Oui, tout à fait. Il va même avant la naissance. Il commence avant la naissance.
Avec l'histoire de papa Napoléon et de maman Napoléon.
Voilà. Vous en entendrez, vous en découvrirez de belles.
Dès le départ, effectivement. Oui. Sur Madame Napoléon, mère notamment.
Oui. Le père était pas mal non plus.
Honneur aux dames.
Oui, mais enfin, ne soyons pas misogynes non plus. Je travaille avec cette contrainte et ça me passionne, mais c'est... On dit tempivore ou chronophage ? On peut dire les deux. Ça dépend si on préfère le latin ou le grec. Non, ça prend du temps, mais c'est passionnant.
60 épisodes à entendre hebdomadairement sur notre antenne.
J'ai pas fini, donc je ne sais pas s'il y en aura 54, 56, 60. Ça, en tout cas, le feuilleton va courir tout du long de l'exposition.
Jusque novembre 1918, vous n'avez pas encore, Stéphane Véru, tout adapté de cet ouvrage d'Henri Guillemin.
2018.
J'ai dit quoi ?
1918, je
Pardonnez-moi,
crois,
j'avais un siècle de retard. 2018, voilà. Donc, vous n'avez pas encore terminé votre adaptation, Stéphane Véru. Peut-être que votre avis sur Napoléon Bonaparte va changer ?
Après avoir vu l'exposition ?
Après avoir fini le feuilleton ?
Ah, mais j'ai lu le bouquin, je l'ai lu 5 fois au moins. Je reste assez fidèle à ce que m'en dit Henri Guillemin.
Mais si votre point de vue sur l'empereur change après avoir vu l'exposition, vous n'hésitez pas à repasser.
Bien sûr.